large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Mathias Renard, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, toujours dans cette maison des écrivains et des littératures à Monthey. Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect culturel d'abord, de votre goût pour la culture et puis un peu des politiques culturelles du canton. On va parler un peu de la santé et du social, hein, qui sont les deux autres morceaux de votre dicaster, de votre département. Un mot sur la politique. Je pose la question à toutes les personnes engagées en politique sur la mémoire de l'étincelle, hein, le moment où, jeune garçon, vous êtes encore jeune, donc ça ne doit pas être si lointain, vous vous êtes dit, tiens, la marche du monde m'intéresse, j'ai envie de m'engager. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où c'est venu progressivement et il n'y a pas de moment particulier ?
Bah, en fait, c'était il y a déjà 20 ans. Quand j'avais 15-16 ans. Je pense qu'il y a eu deux éléments. Il y a eu un élément lié à ma famille. Je pense qu'on est toutes et tous aussi influencés par son milieu familial, le parcours. Je suis issu d'une famille où mon père est poseur de sol, ma mère est infirmière, et où la valeur du travail et la valorisation de celui qui travaille, c'est très très important. Donc il y a cet élément-là. Et puis des valeurs de même si mes parents n'étaient pas du tout engagés en politique, des valeurs de d'égalité des chances, de non-discrimination, de respect qui m'ont été inculquées. Et puis durant mes années au collège, j'avais un de mes très très bons copains qui était à l'opposé politiquement. C'est un peu par ces débats, ces discussions.
Les débats entre amis.
Exactement. Marrant, ça, ouais. Exactement. Ouais. Et je pense qu'on a cette culture politique
vous êtes
en Suisse.
Copains.
Je suis son témoin de mariage, donc oui, on est resté copains. Oui. Ouais. Même s'il était à l'UDC, à Econ, enfin voilà, on était dans des visions totalement différentes, mais avec une amitié malgré tout. Et je pense que c'est aussi ça la force de la Suisse.
Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est une image de la Suisse.
Et oui, d'avoir des gens avec des sensibilités très différentes, mais qui arrivent à se respecter, à se comprendre. On a ce goût du débat, et quand je montre à des amis engagés en politique dans d'autres pays comment ça se passe un dimanche de votation, où il y a le peuple qui a voté, on se retrouve sur un plateau de télé, puis on dit on en prend acte.
Ouais,
moi, je suis souvent dans le camp de ceux qui perdent. Ouais, c'était pas le cas avec la 13e droite
comme,
ADS.
C'est comme quand on part à l'étranger et qu'on revient en Suisse, on se rend compte de la beauté des paysages, hein, parce qu'on allait voir un ailleurs, il était très beau, mais quand même, on revient bouffe. Là, c'est pareil. Hein, c'est tout à coup, quand on regarde comment se passe la politique dans d'autres pays, on se dit ah oui, mais en fait, on a une sérénité qui est folle. Quoi.
Ouais. Une sérénité, on n'aime pas je pense que tout ce qui est vraiment excessif, ça passe pas trop en politique suisse. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il y a une lenteur, parce que tout est toujours le fruit d'un compromis, d'une longue discussion.
Il y a une lenteur, mais il y a des acquis. Hein. Ça veut dire qu'une fois que c'est fait un peu, même si on peut revenir sur des aspects sociétaux et qu'il faut toujours être vigilant. Oui. Pense à l'IVG, par exemple, hein, et on voit ce qui se passe aux États-Unis. Mais quand même, il y a un changement de majorité ne fait pas qu'on pète tout ce qui a été fait les deux ans avant, quoi.
Complètement. Et si on prend par exemple les droits des personnes LGBT, on était plutôt en retard, la Suisse. Il nous manquait toute une série il y avait une série de discriminations qui continuaient à exister dans la loi. Et on a eu en quelques années une évolution très rapide où on a devancé bien des voisins sur le chemin vers l'égalité. Mais parce qu'il a juste fallu du temps pour la maturation, pour que ça se discute, pour que ce soit prêt, pour que...
Non, moi, j'ai eu des milliers de conversations comme ça. On peut donner des armes à celles et ceux qui nous écoutent. Hein, quand nos voisins français ou d'autres critiquent la lenteur suisse, on peut parler aussi des droits populaires. Hein. Le droit de vote des femmes, ça a été une honte pendant longtemps pour la Suisse. Mais enfin... Personne d'autre l'a mis dans les urnes, hein. Ça aurait pas été différent dans un autre pays probablement.
Exactement. Et c'est pareil pour bien des questions, et ça nous permet aussi d'avoir un débat très très serein. Si on compare avec l'exemple que vous citiez de la France, quand on regarde les débats très émotionnels avec des manifs et tout qu'ils ont eu sur le mariage pour toutes et tous, chez nous ça s'est fait dans un climat relativement serein, alors que nous sommes allés plus loin dans le chemin sur le chemin de l'égalité. Donc je pense qu'on peut être quand même fier de notre système. Tout ça, c'est toujours fragile, c'est pas acquis.
Avant que vous parlez de ça, les manifs, ça doit quand même, il y a quand même un petit truc de gauche qui se déclenche dans votre cerveau. Avant que vous soyez au gouvernement, vous étiez un politicien de parlement assez engagé, volontiers militant. J'imagine que vous défiliez au 1er mai. Mm-hmm. C'est un autre rôle maintenant. Je vous en fais pas la critique, mais ce côté un peu non pas salane, quoi. Ce côté un peu, vous adorez l'Amérique du Sud, hein, mm-hmm. si je me souviens bien, El Pueblo Unido, j'imagine.
Mm-hmm. Hein. C'est juste.
Il y a quelque chose qui vous manque un petit peu dans un rôle un peu plus policier, un peu plus sérieux que vous avez maintenant ?
Non, parce que j'ai gardé mes valeurs, j'ai gardé les mêmes valeurs, la même ligne. C'est juste un autre rôle, mais qui n'est pas plus important. Celui ou celle qui va défiler pour le 1er mai ou le 14 juin pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences sexistes ou pour le climat est tout autant utile et a tout autant d'importance dans le débat politique et pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, je suis dans un rôle pour quelques années où je dois essayer de faire bouger les choses à l'intérieur d'un gouvernement. Je m'y emploie chaque jour, je fais de mon mieux pour réussir à faire bouger le canton vers un Valais un peu plus solidaire, un peu plus écologiste, un peu plus féministe. Ça fait partie des engagements que j'ai en moi, des valeurs que j'ai en moi qui n'ont pas du tout bougé.
Vous êtes minoritaire, hein, comme l'ont toujours été les socialistes et la gauche en général au gouvernement valaisan. On peut faire des compromis sans aller dans la compromission, sans mettre de côté ses valeurs ?
Je crois que oui. Ça tient aussi au collège gouvernemental. J'ai la chance d'être dans un gouvernement où on a du respect les uns pour les autres, où on se laisse une marge de manœuvre les uns les autres dans nos départements respectifs. Lorsque j'ai voulu mettre en place une campagne cantonale contre le harcèlement sexuel, contre le harcèlement dans l'espace public, contre les discriminations, j'ai eu le soutien de mes collègues pour le faire, même s'ils ne l'auraient peut-être pas initié eux. Ils ont soutenu la démarche. Et pareillement, je pense pu apporter ma sensibilité sur des questions comme les revalorisations salariales ou encore la revalorisation du personnel soignant, puisque pour l'instant on est le seul canton de Suisse qui a mis en place vraiment des mesures massives pour améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Entre 2021 et aujourd'hui en 2024, le salaire moyen d'un infirmier ou d'une infirmière par année a augmenté de plus de 7000 francs. C'est pas rien. Et c'est pas arrivé par hasard. C'est parce qu'il y a eu un engagement, parce qu'il y a eu une volonté de faire bouger les choses.
Aujourd'hui, vous êtes dans un collège du Conseil d'État qui fonctionne bien, vous l'avez dit, en tout cas de façon dans les interpersonnalités. Hein. Vous avez court-circuité toute la presse, hein. Vous avez répondu à un jeune de la FOVAM hein, sur votre candidature pour les élections cantonales de 2025. Ça vous a amusé un peu de...
De
court-circuiter.
C'était pas de court-circuiter. En fait, c'était même pas
prévu. Vous saviez qu'ils allaient vous poser
des questions? Non, j'avais pas les questions à l'avance. Non, vraiment, j'avais aucune question. Et d'ailleurs, c'était l'interview la plus stressante parce que non seulement j'avais pas les questions à l'avance, comme là aujourd'hui avec vous. Mais en plus de ça, il y avait pas de filtre du tout. Il y avait des questions que jamais on ne pose normalement dans une interview politique, des questions parfois très personnelles. Donc oui, c'était quelque chose d'assez assez intense, mais finalement très sincère, très humain. J'ai adoré participer à cette émission. Je pense que c'était une chance d'y participer. Et puis oui, quand la question est venue...
On a appris donc que vous seriez candidat à une réélection. Ça veut dire que vous y sentez bien. Hein. Vous faites partie de ces démons politiques. Bon, démons, c'est peut-être pas le mot. C'est bête politique de parlement, comme je le disais tout à l'heure. Hein. On voyait que vous aimiez ça à Berne. Vous avez tenu des combats. Ils sont arrivés à terme. Beaucoup ont pu se dire il va s'étioler dans un rôle de gouvernement. Il va s'assagir. Il va devenir gris. Si vous y retournez, ça veut dire que vous aimez ça, quoi.
Oui. Et j'y suis allé en marche arrière. Hein. Je ne souhaitais pas forcément être candidat au Conseil d'État.
Ouais.
Je souhaitais que ce soit une femme. J'ai dit non. Le parti a beaucoup insisté parce qu'il n'y avait pas de candidature à ce moment-là qui émergeait. J'ai fini par accepter en disant bon, je vais faire 4 ans pour sauver le siège. Et puis ensuite, voilà. Et en fait, j'ai énormément de plaisir dans la fonction. J'ai du plaisir avec le travail avec mes équipes, avec le département. Il y a aussi, par exemple, le domaine de l'asile dans le département où on a vraiment développé des politiques de lien. Des politiques qui changent la vie des gens. Vous savez, quand on accepte, par exemple, d'accueillir cet orphelinat de Mariupol ici, dans le Chablais, on change la vie de dizaines de gamins. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau, finalement, que de pouvoir, par une action politique, par des décisions à un certain moment, améliorer la vie de personnes. Donc, voilà, c'est clair qu'il y a beaucoup d'engagement, c'est pas toujours simple, mais quand on peut améliorer les conditions, je disais tout à l'heure le personnel soignant ou encore les familles les plus précaires ou dans ce cas-là des réfugiés ou des personnes qui sont dans le besoin dans notre pays, quand on peut changer ça, bah ça devient tout d'un coup tellement concret et tellement satisfaisant aussi d'être engagé.
Concret, satisfaisant, et puis j'imagine que vous n'allez pas nous le cacher, il y a des monstres qui vous arrivent dessus, les primes maladies chaque année, parlons-en, hein, c'est dans quelques semaines, ça va augmenter, il y a eu des tentatives d'initiatives au printemps qui ont échoué, on a une ambiance qui se reporte un peu sur les cantons maintenant, surtout en Suisse romande, où on a eu un rejeté graben, en gros, les Suisses romands étaient plutôt pour une mutualisation de ces affaires-là. C'est au canton à se dépatouiller maintenant.
Bon, je me suis beaucoup engagé en faveur de cette initiative pour 10%, pour que les primes ne dépassent pas 10% du revenu. Ça me semble déjà beaucoup, 10% du revenu. Je pense qu'on est vraiment dans des situations aujourd'hui où des familles, notamment de la classe moyenne, ont de la peine à s'en sortir à cause des primes. Oui, ça va continuer d'augmenter. Mais il faut comprendre qu'on a des soins qui inévitablement vont continuer à coûter plus cher parce qu'il y a un vieillissement de la population, parce qu'il y a une amélioration de la technologie, parce qu'on peut soigner beaucoup plus vieux, et tant mieux, on peut vivre beaucoup plus vieux, on peut s'en sortir face à des maladies où ce n'était pas le cas auparavant, tout ça tant mieux. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on finance ça et comment est-ce qu'on répartit la facture. Et aujourd'hui, la facture, elle repose énormément sur les gens. Ça est sur une petite partie des gens. Les gens les plus précaires sont aidés. Les gens les plus fortunés, c'est vraiment pas cher les primes pour eux. Donc le problème, c'est pour la classe moyenne.
Non, Genève, ministre de droite d'ailleurs, hein, qui l'a annoncé juste après les votations de ce printemps, c'était Maudet, sauf erreur, hein, qui disait nous, on va se lancer dans l'observation, en tout cas, de ce que pourrait être une caisse publique cantonale, le Valais.
On regarde ça avec intérêt. On pense qu'à l'échelle d'un canton comme le Valais, ça ferait pas sens. Mais pourquoi pas sur un système...
À cause d'une taille de population.
Exactement. Ouais. Mais pourquoi pas sur un modèle roman ou latin. Mais pour moi, à la fin, la solution, ça reste plutôt la caisse publique. Plutôt
Dans
que d'avoir une caisse supplémentaire, il faut avoir une caisse unique, publique, et puis arrêter avec cette fausse concurrence. C'est ma position depuis des années. Elle est sans doute pas majoritaire autour de la table du Conseil d'État. Mais c'est une position qui, j'en suis sûr, si elle revenait aujourd'hui dans le climat, dans la situation où on a vu vraiment les signaux aussi lancés en Suisse latine avec l'augmentation des primes, je crois que c'est inéluctable, hein, un jour ou l'autre, d'y arriver. Les cantons peuvent faire leur part et depuis que je suis arrivé au Conseil d'État, on a beaucoup augmenté les subsides pour les primes maladies. On aidait à peu près 80 000 personnes en 2021. Aujourd'hui, on en aide plus de 92 000. Donc on fait notre part, mais avec aussi un budget.
C'est pas une bonne nouvelle.
Non, c'est pas une bonne nouvelle.
Et puis
on aide les gens qui ont des difficultés
à payer. Une piste de réflexion pour les gens. Ça reste les impôts des gens qui financent ce que les primes maladies ne permettent pas de.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une réforme de système. On a besoin d'une réforme sur les coûts, bien sûr, mais on a besoin aussi d'une réforme sur comment est-ce qu'on finance tout ça. Aujourd'hui, typiquement, on sait que la dernière année de vie d'une personne, elle va coûter, mais bien souvent autant que tous les soins qu'on a eus durant toute notre vie. Et c'est inéluctable chez la plupart des gens. Et aujourd'hui, on fait reposer ça uniquement sur les cantons, ce financement-là. Le financement des soins longue durée, de la politique des personnes âgées. Face à n'importe quel autre défi, par exemple le financement de l'AVS, on trouve des solutions avec la TVA, avec les cotisations, on trouve une solution politique, publique au niveau fédéral. Là, on renvoie la balle sur les cantons qui doivent essayer de se débrouiller comme ils peuvent avec les moyens du bord, et c'est pas satisfaisant.
Bon, il y a des combats à gauche, il y en a à droite aussi qui ont mis plusieurs fois à s'installer, donc vous y croyez à l'idée qu'un jour la progression des scores amènera à ce fameux 51%, quoi.
Oui, mais j'y crois, j'en suis même persuadé. Mais c'est comme ça pour tous les acquis sociaux.
Ouais.
Mais c'est comme ça tous les acquis sociaux. Combien de fois on a dû revenir à la charge pour obtenir l'assurance maternité, le congé maternité. Mais c'était une bataille des syndicats et de la gauche durant des années, des années, des décennies avant d'y parvenir. Tous les progrès sociaux, c'est le fruit de longues luttes. La 13e rente AVS, on l'a pas obtenue comme ça par hasard. On était venu avec d'autres propositions avant pour revaloriser les rentes AVS. Puis on s'est retrouvé dans un point de bascule où les gens ont dit mais ça suffit. Les gens qui ont vécu toute leur vie dans notre pays, qui ont travaillé dans notre pays, qui ont participé à la richesse du pays, mais ils ont quand même le droit de vivre décemment à la retraite. Et donc là, il y a eu un signal très très fort qui a été lancé par la population.
Merci, Mathias Reynard.